on va commencer. Merci d'être là. Merci au TNB de nous accueillir avec tous les la délicatesse qu'accueillez aujourd'hui. Et puis merci à Dimitri qui va faire la lumière, l'allumer et éteindre pendant la séance. Donc c'est la deuxième année que Jean-François et moi proposons un cours commun sous la rubrique analyse de film et psychologie. Et pour cette année, donc, je vais le laisser introduire la séance.
C'est à moi.
C'est à toi.
Bonsoir. Donc, effectivement, nous vous proposons deux soirées qui s'inscrivent évidemment dans le cadre de l'Université populaire de Lyon, dont le thème, la thématique cette année s'intitule « Chaud de vent, mouvements climatiques et réchauffements sociaux ». Et nos deux interventions à Frédéric et à moi-même s'intitulent pour leur part « Fin du monde, fin au pluriel » et « Fin du monde, point d'interrogation, analyse psycho-cinématographique de films ». Donc le côté psycho, ça sera plutôt Fred, le côté cinéma, ça sera plutôt moi, mais évidemment les frontières ne sont pas étanches du tout. Par rapport à cette thématique, on aurait pu aborder des films dont le récit se place d'évidence entièrement, explicitement, sous le signe de la fin du monde, que ce soit pour s'en tenir à des exemples récents, La Route de John Hillcoat, que tu aimes bien, je crois, Mélancolia de Lars von Trier, 4h44, Dernier jour sur Terre d'Abel Ferrara, ou même des purs films catastrophes comme Le jour d'après ou 2012 de Roland Emmerich. Mais Fred et moi-même, on a voulu éviter de tomber dans un commentaire un peu pléonastique, et on a eu envie de se colter avec des récits cinématographiques un peu moins immédiatement évidents dans leur rapport à la question de la fin du monde et ou de l'humanité, mais qui n'en sont que plus intéressants à nos yeux.
On l'espère.
Voilà, on l'espère. Donc pas des récits illustratifs, mais des récits qui permettent peut-être, sous forme d'images et de sons en mouvement, de penser la fin du monde. Alors peut-être pas de finir par l'aimer, comme des questions dans le titre original de Docteur Follamour, vous savez, comment j'ai appris à vivre avec la bombe et à l'aimer, mais peut-être la penser et comment vivre avec cette perspective à travers des récits particuliers de cinéma. Ceci étant dit, même s'ils ne présentent pas d'emblée, ils ne se présentent pas d'emblée sous des dehors catastrophistes, les films qu'on a retenus, à savoir The Thing pour ce soir et Stalker pour la séance de jeudi prochain, sont tous deux centrés sur un petit groupe d'hommes confrontés à une nature sauvage et à un bouleversement qui remet en cause l'état du monde, voire le devenir de l'humanité. On peut signaler aussi que le réalisateur de The Thing, John Carpenter, quelques années après l'avoir réalisé, a souvent dit qu'il s'agissait à ses yeux du premier volet de ce qu'il a appelé une trilogie de l'Apocalypse, qui était constituée de deux autres films qu'il a fait plus tard, Prince des Ténèbres et L'Antre de la Folie. D'autres points communs font que ces deux films constituent un duo cohérent à nos yeux. D'abord, ils sont à peu près contemporains l'un de l'autre. Le film américain The Thing est sorti en 1982, et le film soviétique Stalker est sorti en 1979. Ce sont deux adaptations de récits de science-fiction, et l'un comme l'autre sont susceptibles d'être envisagés de façon assez fortement métaphorique. Par ailleurs, ils présentent des différences suffisamment importantes du point de vue esthétique, narratif, philosophique, pour que nos deux séances ne soient pas non plus redondantes et que ce soit quand même assez différent ce qu'on va pouvoir dire aujourd'hui et la semaine prochaine.
Du moins, on l'espère.
tu le rediras pas une troisième fois. Alors donc, aujourd'hui, on va parler de The Thing. Tout d'abord, alors, quelques mots de présentation générale du film et de son réalisateur, mais ça sera vraiment un survol très rapide, parce que le temps nous est un peu compté. On voudrait avoir évidemment le temps de vous montrer les quatre extraits qu'on a retenus, parler de chacun de ces extraits, Fred et moi-même, mais on voudrait aussi avoir à la fin de la séance un temps suffisamment long pour pouvoir avoir une véritable discussion avec vous à propos de ce qui se sera dit ou pas dit, ou mal dit. Donc The Thing est sorti en 1982, ça je l'ai déjà dit, a été réalisé par John Carpenter. Alors, une petite image de John Carpenter pour ceux qui ne verraient pas du tout à quoi il ressemble. Le voilà, voilà. Le voilà à gauche sur l'image, sur une photo de tournage de The Thing. Carpenter, qui est un cinéaste qui a commencé à tourner des longs métrages au milieu des années 1970 et qui s'est très tôt spécialisé dans les genres cinématographiques qui placent la peur et les diverses formes d'inquiétude humaine au cœur de leurs préoccupations. Ce sera le cinéma d'horreur avec un film comme Halloween, le fantastique avec Fog et la science-fiction avec New York 1997, pour ne citer que des films antérieurs à The Thing. Et en fait, The Thing est le premier et un des très rares films de Carpenter qui relève à la fois de ces trois catégories cinématographiques, horreur, fantastique et science-fiction. Et c'est dire peut-être à quel point la peur y est prégnante. Par ailleurs, John Carpenter a très tôt fait preuve, par exemple dans un film comme Assaut, qui est une sorte de remake du Rio Bravo de Ward Hawks, il a fait très tôt preuve d'un goût prononcé pour les récits qui se déroulent plus ou moins en vase clos, dans lesquels un petit groupe humain est en conflit avec un environnement hostile, et ça caractérise fortement, comme vous allez le voir, le récit de The Thing. Mais The Thing présente en même temps la particularité de montrer, certes, un groupe humain en butte aux rigueurs de l'Antarctique, mais qui, dans le même temps, se voit rongé de l'intérieur par une menace qui est au moins aussi grande. J'en reste là pour ce qui concerne cette présentation générale, mais avant de lancer la projection du premier extrait, je dois quand même vous signaler trois choses. D'abord, même quand il vous semblera que peut-être qu'on s'en éloigne, nous allons essayer de toujours lier notre propos à la question de la fin du monde, ou plutôt, en l'occurrence, de l'humanité. De ce fait, il ne faut pas vraiment s'attendre à une analyse exhaustive du film. On va sans doute laisser de côté bien des aspects esthétiques, narratifs, thématiques qui pourraient y apparaître, qui sont importants. Mais le temps, encore une fois, assez court qui nous est imparti nous force à faire des choix. Secondo, comme nous l'avions annoncé dans la présentation écrite des deux soirées, nous allons montrer d'assez larges extraits des deux films, quatre en tout, et dans le cas de The Thing, nous allons même montrer la dernière scène. C'est-à-dire qu'on risque de déflorer le film aux yeux de ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore vu. Et Tertio, dès sa sortie.
Vous avez le temps de sortir.
Voilà, hein. N'hésitez pas. C'est la conclusion à laquelle j'allais arriver. D'autant qu'il y a une autre raison éventuelle pour partir en courant, c'est que dès sa sortie, The Thing a marqué les esprits à cause de ses composantes très horrifiques, très organiques. Et même si le film a maintenant presque 40 ans, il est encore susceptible, je pense, d'heurter certaines sensibilités. Donc, pour l'une ou l'autre de ces raisons, soit peur de qu'on vous, comme on dit maintenant, spoil le film, soit que vous ayez peur d'être traumatisé, vous avez une dernière possibilité de quitter cette salle.
Après, il est trop tard.
Après, il est trop tard. Non ? C'est bon ? Bon, vous êtes prévenus, vous ne viendrez pas nous faire de procès en justice. On va donc passer au premier extrait, qui est en fait le début du film. En fait, pas tout à fait le début. On y reviendra quand on parlera du deuxième extrait, disons la première séquence.
Merci Dimitri.
Hop. Attends, une seconde peut-être. Donc, rien que pour cette séquence, je pense que ça valait le coup de venir, quelle que soit la qualité plus ou moins grande de ce qu'on dira. Donc je reprends la parole, mais que les fans de Frédéric qui s'y présentent ne s'impatientent pas, et il va bientôt.
Ils sont déjà tous partis.
Parler à son tour. Alors, une des là, peut-être ça ne s'est pas entendu parce que j'avais pas relancé le son dès le tout début de l'extrait, mais en fait, une des premières manifestations sensibles dans cette première séquence, avant même que la mention Antarctique, hiver 1982, n'apparaissent à l'écran, c'est dans la musique qui se fait alors entendre une pulsation très régulière, tom, 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 qui peut évoquer un battement cardiaque. Dans toute la suite du film, le devenir de l'existence humaine sera mis en question dans ses aspects les plus vitaux et les plus organiques, avec le risque qu'elle soit remplacée, terme à terme, par une autre forme de vie plus puissante et plus résistante. Et du coup, cette pulsation inaugurale n'est peut-être pas seulement une façon de mettre en place l'ambiance mystérieuse du film, mais aussi peut-être un avant-goût de cette inquiétude à l'égard de la survie même de l'humanité. C'est peut-être aussi un premier signe de ce que j'appellerais, cette fois du point de vue esthétique, la qualité de respiration du film, qui tient à la qualité à la fois extrêmement précise et toujours sensible, jamais arbitraire, de son cadrage, de son découpage, de son montage, de son rythme et de la durée interne de chaque plan, comme vous l'avez peut-être ressenti dès cette première séquence. Une qualité respiratoire que j'aurais tendance à confronter au danger même qui menace l'humanité dans le film. Mais j'y reviendrai à propos du troisième extrait que nous vous montrerons. En fait, autant que l'ambiance mystérieuse et inquiétante qui convient à ce qui se présente quand même a priori au spectateur comme un film de science-fiction horrifique, cette pulsation en fait installe une impression de gravité qu'on n'attend pas forcément d'un tel film, et d'ailleurs une gravité qui a peut-être contribué au grave échec public du film lors de sa sortie en salle. Le film n'a pas marché du tout à sa sortie, ce n'est qu'avec les années qu'il a gagné ses galons auprès du public. Cette impression de gravité, quand on voit le film une deuxième fois, on peut avoir envie de la désigner d'une autre expression, ce serait peut-être un sentiment de l'inéluctable. Le film commence, comme on dit en latin, in media res, au milieu des choses, on pourrait même plutôt dire, enfin un jeu de mots sur le titre, au milieu de la chose. Et en fait, dans la nouvelle de John Campbell, dont le film est adapté, qui est une nouvelle qui s'appelle en anglais « Who goes there ?»« Qui va là ?» littéralement. En français, je crois que c'est « La bête d'un autre monde ». Dans cette nouvelle, le drame se déroule dans un seul lieu. Dans The Thing, le lieu en question est dédoublé. Il y a la station scientifique américaine qu'on découvre au début du film, et où le film va se dérouler pour l'essentiel. Mais il y a aussi une autre station norvégienne, où le drame auquel nous allons assister en tant que spectateurs s'est déjà joué. Du coup, d'ailleurs, par rapport à la nouvelle, toute cette très belle première séquence est complètement créée toute pièce. Elle n'existe pas dans la nouvelle. Donc la catastrophe a déjà commencé, et son caractère inéluctable tient au fait qu'elle est en train de se rejouer sous nos yeux, même si on ne s'en rend peut-être pas forcément compte absolument à la première vision, mais on peut peut-être en avoir l'intuition malgré tout. En fait, le ver est déjà dans le fruit, la chose est déjà dans l'animal, parce que vous l'avez peut-être compris, même si vous n'avez pas vu le film, c'est un scénario d'infection, de contamination que nous allons assister, infection dont le chien-loup est en fait le vecteur. Ce caractère inéluctable dont il est peut-être pas besoin de trop souligner la résonance qu'il peut avoir avec le sentiment qu'on peut éprouver à l'égard d'une possible fin du monde telle que nous le connaissons. Ce sentiment, il est d'autant plus fort qu'il s'inscrit sur le fond de deux données opposées qui sont mises en conflit, mais finalement d'une façon peut-être plus dialectique, plus complexe, moins simpliste qu'on ne pourrait le croire au premier abord. D'une part, il y a une nature littéralement immaculée, dont le chien loup pourrait apparaître comme une sorte d'émissaire, et un émissaire pour lequel le spectateur, qui est mu a priori par une fibre écologiste, et aussi en l'absence d'explications préalables, peut avoir tendance à prendre fait et cause. Et puis d'autre part, une humanité technologisée, qui, sous la forme de l'hélicoptère, semble vouloir dominer et détruire la nature. Ceci étant dit, très vite on se rend compte que cette humanité est quand même très faillible, voire les quasi-gags qui tranchent un peu avec ce sentiment de gravité, les quasi-gags de la grenade qui, à cause du froid et de la tension nerveuse, sans doute, échappe à celui qui voulait la lancer, et immédiatement après, celui du pilote norvégien qui, voulant à tout prix étouffer, sauver l'hélicoptère, on ne le comprendra que plus tard pourquoi il va à ce point sauver cet hélicoptère, ce moyen de s'enfuir, explose en essayant d'étouffer la grenade avec de la neige. Un des facteurs de la faillibilité humaine, c'est sa division en nations et en langues. Et en fait, si on y réfléchit, si un seul membre de cette station scientifique américaine avait compris ne serait-ce que quelques mots de norvégien, le tireur norvégien dit en fait, moi je ne parle pas non plus de norvégien, mais j'en ai entendu une traduction, en gros il dit « ce chien n'est pas un chien, c'est une imitation de chien et qui porte un danger absolu », eh bien si ces Américains avaient eu quelques connaissances du norvégien, le cours des événements en aurait été radicalement changé. L'humanité se veut toute puissante, mais elle est imparfaite et risque fort d'être anéantie par moins faillible qu'elle. C'est ce que peut suggérer aussi l'épisode apparemment badin, quand on le voit le film pour la première fois, de la partie d'échecs, sur ordinateur, qui voit dès le départ quand même la défaite du héros du film, héros qui du coup use d'un recours ultime et un peu désespéré, la glace jetée dans l'ordinateur, qui n'est pas sans rappeler en fait le moyen que ce même héros utilisera, mais sous une forme opposée dans la forme même qu'elle s'apprend, le recours que le héros utilisera à la fin du film pour essayer, in extremis, de stopper le danger en cours. Ce recours, ça ne sera plus la glace, ça sera le feu qui est un élément basique de destruction, mais aussi peut-être de régénérescence, comme l'est la glace. Et ce feu, accompagné très souvent d'ailleurs dans le film d'Extincteur, il va revenir régulièrement, il va jalonner le film, et on en a une première occurrence d'ailleurs à la fin de la séquence avec l'hélicoptère qui a explosé. La fonction traditionnelle de la séquence de départ d'exposition d'un film, qui est de mettre en place des éléments, des idées, des figures qui vont être reprises et développées dans la suite du film, eh bien, cette séquence inaugurale, ici, elle participe peut-être, elle aussi, de ce sentiment d'inéluctabilité, difficile à dire, que j'ai évoqué, et encore plus, là aussi, quand on revoit le film. Quand on le revoit, le moindre événement, le moindre geste peut être perçu comme une préfiguration discrète de la catastrophe à venir. Par exemple, lorsque l'Américain blessé à la jambe porte la bouteille de whisky à ses lèvres après qu'il a été copieusement léché par le chien. Je m'arrête là et je te passe la parole.
Alors, tu parlais de fonction traditionnelle. La fonction traditionnelle du psychologue, c'est de dire des films psychologiques. C'est ce que je vais faire maintenant, de façon beaucoup moins brillante, mais peut-être en soulignant à la suite de Jean-François la qualité de tension extrême de cette ouverture, hein, qui est effectivement amenée à la fois par les bruits, l'ambiance, hein, notamment vantée de ce grand espace vide, et puis la pulsation dont tu as parlé, et l'arrivée de quelque chose. C'est quand même la première chose qu'on voit bouger dans le champ, c'est l'arrivée de quelque chose depuis le fond du champ comme une menace. Et cette idée de menace et de trac caractérise vraiment l'ouverture du film et aboutit au fond à nous faire partager ce que le chien semble éprouver, c'est-à-dire une espèce de peur, ce chien dont on ne sait pas encore, parce que toi tu parles comme quelqu'un qui a beaucoup vu le film et qui déjà anticiperait ce qu'on peut en comprendre, mais c'est vrai qu'à la première vision, on est absolument vierge de tout présupposé, et on perçoit que cette menace est cette peur animale, en fait, hein, cette peur animale, alors qu'au fond, la peur qui va traverser tout ce film va essentiellement concerner les humains, c'est quelque chose qu'au fond, dans cette scène, on partage avec ce chien et qui nous rend, je dirais, qui nous ramène à notre homologie avec notre milieu naturel. Donc voilà, cette scène de menace qui s'étend, alors qui donne l'impression presque, elle est très montée, mais dans ce grand espace vide, vierge, blanc, et dans la tension extrême qu'il traverse, on a l'impression presque d'un plan unique, ou en tout cas d'une continuité, c'est l'art de Carpenter, qui est toute tendue par cette peur animale. Puis d'un coup, on se retrouve dans un intérieur feutré, vous l'avez remarqué, entendre de la musique, si je me rappelle bien, des bruits de voix, des balbutiements, enfin quelque chose d'un intérieur domestique et d'une grande détente, que va seulement peut-être un peu contredire le rapport, ce premier rapport entre l'homme et la machine, dont on aura sûrement à dire quelque chose encore au cours des commentaires des extraits suivants, où donc tu as souligné la dialectique tout de suite qu'on peut apercevoir entre froid, enfin chaud et froid, entre glace et feu, qui effectivement va traverser ensuite le film de manière dramatique, mais qui aboutit aussi, et ça c'est peut-être une première prémonition, à un échec aimable. Et puis d'un coup surgit, pourrait dire brutalement, la violence d'un coup, et sur ce fond de grande tranquillité, surgit la violence énorme, enfin non préparée, absolument captivante, et cet enchaînement d'accidents, de morts, de blessés, hein, deux morts et un blessé en quelques secondes, une explosion et la sidération brutale de tout ce groupe d'hommes, et bien là on a toutes les marques de ce qu'on pourrait caractériser psychologiquement comme l'avènement d'un traumatisme. Un traumatisme, psychologiquement, c'est pas forcément des explosions, des morts ou des chiens qu'on poursuit, c'est le surgissement brutal d'un événement qui va déchirer l'ambiance qui précédait et où rien ne préparait à ce qui allait surgir, advenir. Et donc vraiment, cette scène initiale a déjà, malgré au fond le peu de fantastique, le peu d'horrifique qu'elle contient, le caractère, tout le caractère d'un traumatisme, tout le caractère psychologique d'un traumatisme. Voilà ce que le psy a à dire pour commencer.
Alors, il me revient la tâche redoutable de faire le lien avec le deuxième extrait qu'on va montrer, et tu n'hésiteras pas, ou les personnes qui auraient vu le film n'hésiteront pas à me corriger, si je ne suis pas très bon pour raconter la trame d'un film précisément. Entre la fin de l'extrait que nous venons de voir et l'extrait que nous allons voir maintenant, le personnage barbu qui s'appelle en fait MacReady et qui est un pilote d'hélicoptère va emmener un des membres de l'équipe scientifique sur la station norvégienne, sur les lieux de la station norvégienne dont venait le premier hélicoptère, et ils vont y découvrir une scène absolument effroyable de dévastation et de mort, et plus particulièrement deux éléments très mystérieux et inquiétants. D'une part, une espèce de grande piscine de glace dans laquelle manifestement s'était trouvée une créature, disons-le comme ça, et puis un corps qui a été transporté à l'extérieur, un corps humain mais hideusement transformé, en cours de transformation, et qui a été manifestement brûlé. Et ils vont découvrir aussi, je le dis parce que ça va être important pour le début de l'extrait qu'on va voir, des archives vidéo qu'avaient filmé les Norvégiens. Ils ramènent tout ce petit pécule horrifique à la station américaine. Autopsie du corps retrouvé à l'extérieur brûlé qui étonnamment ne présente que à l'intérieur que des organes normaux, humains normaux. Mais en revanche, grand problème quand on amène le chien loup de la première séquence dans la cage aux autres chiens de la station de traîneau de la station américaine, puisque dans la nuit, le chien en question opère une métamorphose assez terrifiante et se met manifestement à vouloir capter les autres chiens. Les absorber d'une certaine façon pour apparemment les remplacer. Enfin, ça, c'est ce qu'on va comprendre au fur et à mesure. La créature terrifiante semble être mise hors d'état de nuire par le feu. Nouvelle autopsie où on se rend compte que la créature en question était en train, en fait, effectivement, de reproduire d'autres chiens, enfin, elle était dans un processus de transformation, je pense qu'on est à peu près là dans le récit, à peu près là. Je ne crois pas me tromper. Donc, reprenons avec le deuxième extrait. Ça va, vous suivez à peu près ? Désolé, ça coupe un peu abruptement dans la musique. Alors, la première chose qui m'a frappé dans cette séquence, en la revoyant, c'est le fait qu'elle fait coexister, en un temps relativement restreint, quatre régimes d'images différents. Tout d'abord, au début de la séquence, de manière assez évidente, ce sont ces images vidéo en noir et blanc, vidéo portative, tournées par les Norvégiens. Puis, à la fin de la séquence, il y a cette imagerie numérique qui nous apparaît aujourd'hui très simple dans sa forme, mais on pourra parler justement de l'intérêt de cette simplicité apparente par rapport à la gravité de ce qu'elle évoque. Évidemment, il y a les images de cinéma tournées par John Carpenter avec certains choix esthétiques. Et voilà. Et alors là, vous allez me dire, j'ai annoncé 4 et j'en ai dit que 3. Mais en fait, au début de la séquence, et là, peut-être qu'on pourra dire, ah oui, mais ça, c'est pour les forts en thème, les cinéphiles. mais il n'en reste pas moins que ça fait partie du film, et là pour le coup il n'y a pas d'incertitude sur ce point, c'est que ces images évoquent aussi d'autres images, ces images considérées comme très contemporaines de vidéos au moment où le film a été tourné, peuvent en évoquer d'autres beaucoup plus anciennes, au sens où le film est en fait un remake. C'est à la fois l'adaptation de la nouvelle dont j'ai parlé tout à l'heure, Who Goes There, mais c'est en fait la deuxième adaptation de cette nouvelle, et la première adaptation avait été signée par, en 1951, par Howard Hawks. Alors, en fait, il semble que Hawks ait produit, supervisé, suivi le film de bout en bout. En fait, il l'aurait pratiquement réalisé, je dis ça parce que le film qui s'appelle La chose d'un autre monde en français est attribué à un autre cinéaste, Christian Nibi, mais pour faire simple, disons que c'est un film réalisé par le cinéaste préféré de John Carpenter, Howard Hawks. Et il me semble qu'en fait, certaines de ces images noir et blanc sont des échos directs de certaines images du film de Hawks. Et par exemple, voilà, la première, si elle veut bien s'ouvrir, voilà. Vous voyez, ça c'est une image du film de Hawks. Si vous rappelez des images vidéo du début, on voit des personnages qui essayent de circonscrire la taille de ce qui s'avérera être un engin spatial. Ça y fait penser très fort, de même que le moment où on procède à l'explosion de la couche de glace qui recouvre ce vaisseau. Et en fait, je pense qu'il y a chez une forme un peu d'ironie chez Carpenter par rapport à ces images vidéo dont on nous dit qu'il en a été tourné 9 heures, c'est-à-dire quelque chose, une espèce de flux énorme d'images, semble-t-il, très ennuyeuses et dont certaines seulement sont capables d'évoquer quelque chose de la catastrophe en cours, là où le cinéma de Hawks est celui que Carpenter pratique lui-même, se réclame d'un classicisme, du choix souverain de telle image et pas de telle autre, de tel plan et pas de tel autre, une espèce d'économie absolue de tournage qui est l'envers du tournage vidéo sans interruption. À l'autre bout de la séquence, on a donc ces images numériques. C'est la deuxième fois dans le film qu'on voit plein écran les images des images qui sont censées être générées par un ordinateur. On a donc eu déjà celle de la partie d'échec dans la première séquence. Dans les deux cas, ces images, explicitement dans le premier cas, plus allusivement dans le deuxième, évoquent une forme de jeu, ce qui peut-être contribue d'une certaine manière à en limiter la portée. Je veux dire par là que ces images, elles... Ah, tu peux remettre le café, s'il te plaît. Ces images... Pardon. ces images numériques, certes, elles permettent de faire une prospective très... Que ne pourrait pas opérer un être humain, un individu humain seul. Et d'ailleurs, le film a été fait à un moment où l'informatique était rentrée dans l'imaginaire collectif, mais c'était plus une donnée neuve comme elle pouvait l'être, par exemple à l'époque de 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Mais c'était, en revanche, le film est contemporain du moment où on commence peut-être à se dire, de manière généralisée, pour tout un chacun, que l'informatique va peut-être devenir une forme d'image invasive. C'est pas que de l'image, évidemment, mais ça passe par de l'image, d'image invasive qui va, pour tout un chacun, devenir une espèce d'extension du cerveau individuel. Et cette extension a des limites, puisqu'elle va permettre de mesurer l'étendue, la rapidité à laquelle le désastre risque de se propager au reste du monde. Alors, c'est pas très évident quand on lit à l'écran, c'est 27 000 heures, en fait. C'est pas 27 heures, 27 000 heures, c'est-à-dire à peu près 3 ans. Mais qui en même temps n'apporte aucune solution à la catastrophe en cours. À côté de ça, il y a, comme je l'ai dit, évidemment, ça constitue quand même l'essentiel du film, les images tournées par John Carpenter avec ce choix qui est celui qu'il a fait depuis déjà, je pense, 2 ou 3 films et qui sera quasi permanent. Il y a un seul film, je crois, qui fait exception à cette règle, ce choix de l'écran large, du format, disons, scope, dont il use réellement, contrairement à beaucoup de cinéastes qui, en fait, continuent à centrer les choses au milieu de l'écran avec beaucoup d'air autour. Carpenter est connu pour être un des cinéastes qui use de toutes les possibilités de cette largeur de l'écran scope, avec, dans ce film, une possibilité d'évoquer, de faire apparaître à l'image plusieurs êtres vivants et de créer une forme d'indistinction entre ces êtres, entre autres en termes de quel est l'humain et quel est le non-humain, quel est le prédateur et quel est la proie. Il va y avoir dans le film comme ça, et entre autres par le jeu sur cette inscription des personnages dans ce cadre très large, une façon de dire que la catastrophe à laquelle on assiste dans ce film n'est plus, c'est plus la terreur des anciens films d'épouvante. Le film est produit par Universal. Universal est le studio qui avait produit les grands films d'épouvante des années 30, les films canoniques, autour de figures très spécifiques, très individualisées, le monstre de Frankenstein, le loup-garou, Dracula. Là, on est dans un type d'horreur, un type de peur où le danger se, se subdivise, se généralise, se reporte sur un certain nombre d'êtres un peu indifférenciés. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui fait que Carpenter, qui aimait beaucoup le film de Hawks, La créature d'un autre monde, regrettait quand même que la créature dans ce film apparaisse comme une sorte, il le disait lui-même, de monstre à la Frankenstein. Par ailleurs, ce qui est, je pense, impressionnant dans cette scène, j'ai dit au début de l'intervention que la première séquence que vous avez vue n'était en fait pas le tout début du film. Avant cette première séquence, il y avait deux plans qui montrent une soucoupe volante, appelons-la comme ça, qui vient s'échouer sur Terre. Et puis, on passe à la première séquence, on oublie un peu la soucoupe en question, qu'on va redécouvrir dans la scène que vous venez de voir. Et tout ça, au cinéma, on a tendance à tout vivre au présent. Ça n'est qu'au cours de la scène qu'on vient de voir qu'il nous est dit que, en fait, ce qu'on avait vu au tout début du film, c'était sans doute déroulé 100 000 ans auparavant. Donc, tout d'un coup, une espèce de mise en perspective temporelle un peu vertigineuse qui s'oppose à la mise en perspective temporelle de la fin de l'extrait, où cette fois, la prospective numérique nous donne à penser que ce danger, cette catastrophe en cours, va se propager dans les 3 ans à venir. Quelque chose d'inversement proportionnel. Et encore une fois, avec ce contraste entre l'énormité de ce danger et la simplicité extrême du visuel numérique qu'on voit à l'écran, qui encore évoque une sorte de jeu de Pac-Man. Je passe rapidement, il y a un aspect, comme je pense qu'on est déjà en retard par rapport à notre planning, je passe rapidement sur le fait que, qui est malgré tout très intéressant, que pour parler de la catastrophe, pour évoquer un phénomène catastrophique, il y aura des aspects du film, de nombreux aspects qui joueront sur l'horreur, les phénomènes disons de laideur visuelle, mais il y a aussi en même temps par moments des grands moments d'une certaine beauté visuelle, et on en a quelques exemples dans cette séquence, à travers le jeu sur les matte paintings, ces peintures sur verre qui servent à toute la représentation de la soucoupe volante, et même les moments de transformation des corps peuvent évoquer par moments un petit peu la beauté terrible des peintures de Francis Bacon. Mais je m'arrête là, et je terminerai avec le personnage de Blair, donc qui, à la fin de la séquence, étant le seul à ce moment-là du film à avoir pris conscience de toute l'étendue du danger, va choisir une solution radicale, puisqu'on va pas le voir ici, mais en fait, il va vouloir procéder à la destruction de la station et à l'impossibilité pour les êtres qui sont dans la station de migrer ailleurs. Ce personnage qui est le seul à ce moment-là, dans cette situation de catastrophe, à prendre la mesure de l'étendue du désastre, l'ironie cruelle du film, c'est que à la fin du film, il sera celui, bon, sous la forme de la devenu lui-même la chose, ou ayant été lui-même copié par la chose, il sera lui-même une des victimes, une victime de la solution radicale à laquelle les autres personnages se résoudront à procéder. Mais il est le premier, et c'est vrai que ça peut avoir aussi une résonance assez forte, cette idée de, dans une situation extrême, de danger généralisé extrême, à quelle solution radicale sommes-nous prêts ou non à procéder.
Oui, le fait que tu parles de ce scientifique m'en intéresse parce que c'est effectivement par les images de la science, et c'est une nouvelle fois l'intervention d'une machine qui aujourd'hui peut nous paraître archaïque. Je pense qu'à l'époque, quelques personnes qui peuvent témoigner de ce que c'était que de voir ce film à sa sortie. Il y en a au moins une ici qui l'a vu à sa sortie. Mais en tout cas, elle permet cette vraisemblance scientifique de la prospection sur le devenir de la catastrophe, qui effectivement nous porte à 3 ans, 27 000 heures. Et qui contraste, c'est un regard de terrain, mais qui nous informe que la soucoupe est tombée 100 000 ans avant. Et, Et donc c'est là l'origine de la catastrophe. Et au fond, on se rend compte dans cette collision temporelle, dans cette parfait déséquilibre entre le fait que les choses ont commencé il y a très longtemps et puis que maintenant il va être trop tard, ce qui peut nous rappeler beaucoup des discours catastrophistes, voire collapsologistes aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans une temporalité qui n'est plus du tout une temporalité que l'humain peut maîtriser. Hein, puisque si de toute façon on ne pouvait rien faire 100 000 ans avant, dans les 3 ans qui viennent, on ne pourra pas non plus, sauf les solutions radicales que tu évoquais, arrêter le processus en cours. Et ça, évidemment, ça résonne beaucoup avec ce que les angoisses catastrophistes et catastrophiques qui peuvent traverser actuellement nos sociétés et peut-être un peu chacun de nous. En tout cas, ça nous met, ça met les protagonistes du film dans une absolue impuissance qui n'est pas... Enfin, du fait que les choses ne sont plus, disons, à l'échelle humaine, mais sont à l'échelle planétaire et la cosmique. Hein, tu rappelles que la soucoupe vient de l'espace. Mais cette impuissance absolue, cette impression de déréliction, c'est évidemment quelque chose qui peut nous rappeler ce qu'évoquait Freud en parlant du petit humain, mais de l'humain dans son essence, hein, face au monde. C'est ce dénuement parfait et cette impression d'être livré à tout ce qui est ce qui le menace sans aucune défense. Et il me semble que cette séquence, malgré son caractère cette fois assez peu tendu, on pourrait dire, contrairement à celle qu'on a vue et peut-être celle qu'on va voir maintenant, atteste là cette fragilité absolue de l'humanité dans la catastrophe.
Oui, parce qu'effectivement, là, l'extrait que nous allons voir maintenant est ce fameux moment horrifique que j'avais annoncé au début de la séance. Voilà. Alors, entre-temps, mon Dieu, vais-je réussir à résumer ce qui se passe entre cet extrait et le suivant? Là, il y a prise de conscience sur la station américaine du phénomène d'infection, de duplication mimétique des différents êtres humains par ce qu'on appelle donc cette créature, cette chose. Il y a l'épisode de Blair qui essaye de tout détruire et qui va être isolé pour a priori son bien, croit-on, enfin le bien de la station et son propre bien, croit-on. Là, le phénomène de méfiance commence un peu se généraliser. Et cette méfiance finit par toucher le personnage de Macready, qui à un temps, alors qu'il apparaissait de plus en plus comme une figure de, j'aime pas ce terme, mais disons de leader dans le danger en cours, va être celui qui va être ostracisé un temps parce qu'on va on va croire que c'est lui qui est porteur de l'infection. Et à un moment donné, il y aura une séquence terrible de tentatives de défibrillation d'une des victimes de la chose qui va donner lieu à une des grandes séquences horrifiques du film. À l'issue de tous ces événements, Macready va, comme on va le voir dès le début du film, où qui laisse pas mal de personnages sur le carreau, dont le personnage que vous allez voir au début avec une cicatrice de mal dans la tête. À partir de là, Macready va avoir l'idée d'un test qui permettrait peut-être de séparer, de distinguer les humains des non-humains. Donc, il s'agit de la... Ça va, personne s'évanouit.
Bon. C'est qu'il y a un psychologue.
Il y a un psychologue dans la salle. Il s'agirait de la scène pour laquelle John Carpenter aurait réalisé ce film. Il l'a dit souvent, c'est la scène qui m'a donné envie vraiment de procéder à une nouvelle adaptation de la nouvelle de Campbell. Et c'est d'ailleurs sans doute celle qui, avec la première séquence de la poursuite du chien, reste le plus dans les esprits après la vision du film. Une scène, là aussi pour reprendre l'évocation par Carpenter lui-même de cette scène, une scène d'enfer sur Terre, donnée à voir, à visualiser ce que serait une situation infernale vécue sur Terre, et qui doit sans doute une bonne part de sa tension horrifique au fait qu'elle est, pour une très large part, dénuée de musique. Il n'y a pas d'éléments sonores dramatiques qui serait une forme d'exutoire pour la tension du spectateur. Souvent, la musique ou les réactions de certains personnages peuvent créer un exutoire pour le spectateur. Là, non, on n'est pas l'horreur de la scène ne sera pas relayée par la musique à l'écran. C'est à propos de cette scène que j'ai dit au début de cette séance qu'il y avait, à mon point de vue, une sorte de confrontation dans le film entre ce que j'ai appelé sa respiration esthétique, qui tient à son montage, à son cadrage, au rythme interne de chaque plan, et le caractère extrêmement organique de la chose. Alors, la chose, en fait, elle se manifeste dans le film soit sous une forme, en fait, justement, elle ne se manifeste pas, soit elle est indétectable, soit au contraire, par moment, elle est surdétectable, survisible dans ces grands moments d'horreur visuelle tel que celui que vous venez de voir. Et il me semble que dans ce film, il y a cette respiration dont j'ai déjà parlé relève de ce qu'on pourrait appeler une conception classique du cinéma, une conception dans laquelle le filmage et le montage sont, même dans un film aussi qui prend apparemment autant le large par rapport au pur réalisme que The Thing, un filmage et un montage qui malgré tout reste centré sur les êtres humains, voire par exemple le très beau moment à la fin de la séquence, ce moment divisé où la fin de la scène est ponctuée par des ellipses très très mesurées, très très précisément installées dans la séquence et qui indiquent, qui suivent le passage de frontière des personnages soupçonnés aux personnages blanchis. Il y a quelque chose de très très précis là-dedans. Et en même temps, la beauté de cette façon de faire du cinéma de Carpenter, cette espèce de continuation du cinéma classique, c'est la conscience sans doute que ce cinéma classique a ses limites, lui aussi. Je parlais de limites tout à l'heure, d'ailleurs. Le personnage, la faillibilité des personnages revient avec ce moment du lance-flamme qui s'enraye. Et le cinéma classique a peut-être ses limites aussi, par exemple, dans la capacité qu'on a pu lui prêter à, en particulier à travers les gros plans de visage, à donner au spectateur accès à l'intériorité des êtres filmés, à dire quelque chose, pour le dire comme ça, de l'âme des personnages, par cette figure particulière du gros plan. Ici, les gros plans dans la séquence ne permettent très souvent pas du tout de déterminer, entre autres, qui relève encore complètement de l'humanité, qui n'en relève déjà plus. Et c'est peut-être cette conscience très vive chez Carpenter, alors même qu'il ne cherche pas à dynamiter le cinéma classique, qui fait la beauté, ce côté, peut-être que le cinéma arrive à un point où il peut essayer d'évoquer certains phénomènes très inquiétants, mais il ne pourra peut-être pas aller beaucoup plus loin. c'est aussi une séquence où la question du manque de confiance, dont Carpenter a souvent dit qu'elle était pour lui au centre du film, et donc d'ailleurs il se trouvera que dans le film qu'on va évoquer la semaine prochaine, Stalker, c'est aussi un élément central, ce déficit de confiance entre les êtres humains. C'est une des scènes où ce manque de confiance, qui commence dans le film par une forme de scepticisme, le voodoo bullshit, les conneries vaudou qu'évoquait le personnage, ironie du scénario, c'est un personnage noir qui parle de conneries vaudou, et qui va se transformer en ce manque de confiance qui va miner de l'intérieur cette petite communauté, avec cette idée peut-être justement aussi que ces grandes scènes horrifiques vont permettre au film d'échapper au scénario purement mental. Il arrive souvent dans les films fantastiques que, face aux phénomènes qu'on voit à l'écran, on se dise « mais peut-être que tout ce qu'on voit, tous ces phénomènes étranges, effrayants, sont purement dans l'esprit des personnages et qu'il s'agit d'une sorte de pure psychose collective ». Dans le film, l'énormité de la représentation de la chose quand elle se manifeste très visiblement contribue à quand même penser que non, il y a bien un phénomène terrifiant en cours qui se manifeste de manière très 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 visible, hyper visible, presque obscène. D'ailleurs, on a reproché à la sortie du film à Carpenter d'être un pornographe de l'horreur, de pratiquer dans le domaine de l'horreur quelque chose qui s'approchait de l'obscénité de la pornographie. Avec cette idée peut-être que, alors, du coup, quelle est cette créature exhibée de manière pornographique? Peut-être, c'est un grand autre assurément, mais c'est peut-être aussi dans ce monde exclusivement masculin, on en reparlera après la séquence, lors de notre discussion, c'est peut-être aussi une figure d'altérité, j'allais dire féminine, en tout cas plutôt femelle que mâle. D'ailleurs, c'est un personnage qui n'arrête pas de se reproduire à l'infini. Je m'arrête là, je te passe la parole.
Oui, la parole pour dire que peut-être face à ce que semble poser cette scène, en dehors de tous ces aspects que tu as soulignés de construction, de montage, de regard, c'est quand même la deux oppositions, enfin, qui me semblent importantes. D'un côté, l'une qui serait l'injustice et la pitié, pour pouvoir sortir de la situation atroce dans laquelle on est, d'être condamné à être contaminé, à s'éliminer les uns les autres, il faut faire un choix drastique. On voit dans cette scène que des choix ont été mal faits, puisque finalement le sang d'un des hommes qui avait été abattu s'avérait ne pas être celui de la chose. Donc tu es un assassin. Il faut peut-être aller jusqu'à cette extrémité d'être un assassin pour pouvoir tenter de sauver quelque chose du groupe, de la communauté, de l'espèce, je ne sais pas. Mais en tout cas, le cercle des survivants se restreint sous le signe de l'angoisse. Et si on veut si on veut arrêter cette restriction avant son issue fatale, il faut user de quelque chose d'impitoyable. Donc, alors qu'en même temps, on ne peut qu'éprouver de la pitié pour ceux qui passent les uns après les autres à la question, on pourrait dire, y compris d'ailleurs même de la pitié pour cette victime ultime dans la scène, qui est, alors je ne me rappelle plus son nom,
Windows,
qui est avalé par la chose et qui lui-même se transforme en chose, mais qui est encore partagé entre quelque chose d'humain et quelque chose d'innommable, justement, on va y venir.
Qui émet des petits bruits pathétiques.
Et voilà, et qui couine un peu presque comme un petit enfant et qu'il faut pourtant brûler, alors que quelques instants avant, c'était encore un homme, on pourrait dire. Et puis l'autre opposition, c'est l'opposition entre les noms. Vous avez peut-être remarqué que dans cette scène, il y a une valse des noms. Les gens ne cessent pas de s'appeler par leur nom. On voit leur nom de famille sur les coupelles de sang. Et donc cette inflation du, du nom, du nominal, et ce qu'il y a de littéralement innommable, hein, qui va apparaître là, au grand jour, au milieu du groupe d'hommes. C'est la première fois qu'elle apparaît comme telle, hein, dans le film. La première fois, c'était au milieu des chiens, mais là, c'est au milieu des humains. Et c'est vraiment quelque chose d'innommable. Pour le coup, c'est intéressant de faire le parallèle entre le fait qu'on a décidé de nommer, en tout cas, dans le film de Carpenter, pas dans le roman ni dans le film qui précédait, mais ce phénomène, la chose, et non pas la chose d'un autre monde, simplement la chose, et qui a une correspondance tout à fait troublante avec le terme psychanalytique ou le concept psychanalytique de chose qui désigne justement, sous la plume de Freud et dans le verbiage de Lacan, ce qui est innommable, ce qui est irreprésentable. Alors là, on ne peut pas dire que ce n'est pas figurable, puisque Carpenter le figure, mais ce qui est innommable, là, dans le film, s'oppose absolument à cette valse des noms des derniers hommes, en fait, on pourrait dire. Alors, les derniers hommes, on va le voir, je ne sais pas, c'est un peu l'objet de la séquence qui va suivre, mais en tout cas, du cercle des survivants.
Tu ne veux pas faire le résumé qui nous mène au dernier extrait, qu'est-ce qui est bien parti?
Je vais avoir du mal, mais en gros, ça s'accélère gravement.
Ouais. Le nombre des victimes enfle.
Le nombre des victimes enfle, on perd. Alors, il reste à la fin 4 personnes, potentiellement, dans la station, et la décision est prise d'éliminer la chose en détruisant la station avec l'installation d'explosifs. Je suis beaucoup moins précis que Jean-François quand je raconte
cette solution radicale dont on parlait tout à l'heure.
Voilà, que Blair, dont on n'a pas encore vraiment compris quel est le destin à ce moment, au moment de cette décision, que Blair, qui est enfermé dans un bâtiment à part, envisageait, lui, dès le début, hein, lui, le scientifique, il avait cette idée qu'il fallait en passer par des solutions radicales. Et donc, cette destruction de la station finale est en cours au moment où commence notre dernier épisode.
Alors, retour final à cette pulsation que j'évoquais au tout début du film. Et une fin qui semble elle aussi avoir contribué à la mauvaise réception du film, à savoir que deux reproches lui ont été faits, deux reproches un peu opposés. L'un d'être peut-être trop déterminé dans un sens négatif, c'est-à-dire qu'on a fait un reproche au film un reproche de nihilisme. Le fait que cette fin soit trop déprimante ne donne l'impression que l'humanité allait forcément à sa perte. Et d'un autre, un reproche un peu inverse, le fait que cette fin ne soit pas assez déterminée, ne soit pas assez résolutive, puisqu'on laissait complètement en suspens la question de savoir si MacReady ou Childs étaient l'un ou l'autre et jusqu'à quel point eux-mêmes atteints par l'infection. Pour la petite histoire, lors d'une rencontre avec des spectateurs, un des spectateurs aurait enjoint Carpenter de lui donner une réponse à cette question, et Carpenter aurait dit « mais ça c'est entre vos mains, c'est votre affaire de spectateur à la fin du film de vous donner des hypothèses possibles », et le spectateur aurait dit « oula, je déteste ça ». Voilà. Ce qui dit bien à quel point ce côté non résolutif avait pu constituer un vrai problème. Et c'est souvent, en fait, le problème des récits catastrophistes, d'être soit trop déterminés dans leur fin, soit trop indéterminés, soit de sembler donner un point final optimiste ou pessimiste à cette question de la catastrophe, soit de laisser un vague tellement épais que le film en devient carrément, le film ou le récit écrit, ça peut être aussi sous une forme littéraire, carrément brumeux. Dans le cas de cette fin, on peut avoir le sentiment, et c'était d'ailleurs le sentiment de Carpenter, que c'était finalement la seule fin possible, la seule fin honnête. D'ailleurs, Carpenter avait envisagé d'autres fins, il en avait même filmé une autre, et il ne cessait de revenir à cette fin-là, qui est une fin suspendue, mais qui revient vraiment au cœur de la question du film, c'est qu'est-ce qui minimalement fait encore humanité ? Et peut-être que ce qui minimalement fait encore humanité dans cette situation, c'est ces deux personnages qui, dans la situation telle qu'elle est posée à la fin, décident de s'arrêter, de suspendre eux-mêmes un petit peu le drame en cours, de partager une bouteille d'alcool, avec cette idée que le film se termine sur une image qui pourrait être une image prise dans un film absolument pas catastrophique pour le coup, de simple humanité partagée, avec d'ailleurs un choix de forme lui-même très simple, vous avez vu, c'est systématiquement chant sur un personnage, contre-chant sur l'autre. Il y a plusieurs façons de filmer deux personnages ensemble, on peut les filmer les deux dans le même cadre, on peut par un mouvement de caméra passer de l'un à l'autre, et là on a cette solution de filmage-montage qui est une des plus banales qui soit, une des plus récurrentes qui soit, c'est on filme l'un puis l'autre, avec cette capacité qu'a cette forme à exprimer aussi bien une possibilité d'opposition qu'une possibilité de rassemblement, de communauté, de partage. Après, les hypothèses les plus folles ont été faites à propos des signes minimaux qui permettraient de distinguer si tel ou tel personnage est passé de l'autre côté ou non. Mais je pense qu'on peut apprécier la scène en deçà de ces hypothèses un peu fantaisistes.
Moi, je vais être très bref, comme ça on aura le temps de parler, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je ferai un peu dans la lignée de nos cours de l'année passée sur ce que pouvait transmettre le cinéma de l'état de la psyché. On avait quand même insisté sur l'aspect phénoménologique de l'image et des scènes à travers quelques extraits. Et dans celui-ci, je trouve qu'il y a cette qualité, en faisant une phénoménologie très minimale de l'image, mais il y a cette qualité de boucler les choses absolument avec la première scène. Hein, vous vous rappelez ce blanc immaculé, cette idée que tout commence au pôle, tout commence avec le pôle, et ça aussi, ça résonne beaucoup aujourd'hui avec les questions qui traversent l'humanité et l'avenir de la planète. Tout commence dans la lumière étincelante, le jour, la blancheur, le froid, la glace, et là tout finit dans l'obscurité, la nuit, la chaleur, hein, on le dit, c'est vrai qu'on partage en même temps un peu de cette chaleur qui va les régénérer quelques instants, mais qui doit être suffisamment intense pour quand même les protagonistes puissent le noter, la température a monté, dit-il. Et vraiment cette opposition des deux Stimmung là ramasse le film dans toute sa splendeur, je trouve, et dit aussi la façon dont il est question à nouveau de la nature des éléments, même si cette explosion ne s'est pas produite de façon tout à fait naturelle. C'est aussi une belle figuration, je trouve, des cercles possibles. Tu disais figuration possible de l'enfer, mais figuration des cercles possibles de l'enfer tel que Dante les décrivait, hein, glacés ou brûlants. En tout cas, ce qui est frappant, c'est le vieillissement de ces deux personnages d'un coup. Et je faisais la remarque, puisque tu évoquais la route au début, que le personnage de MacReady pouvait tout à fait évoquer le personnage du père dans le film de la route. Et cette fin où, justement, il reste deux personnages, l'un des deux va s'en aller, va mourir, en l'occurrence le père, et pourtant il est question d'un mince espoir pour l'humanité. Là, tu as bien décrit cette alternative possible, d'un mince espoir, même si Carpenter disait le film c'est une mort collective, la fin du film c'est vraiment la représentation d'une mort collective finale. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant, mais va vous laisser la parole, peut-être, maintenant.
En précisant, on s'est dit que si une question ne nous mettait en défaut, si on n'arrivait pas a priori à y répondre, on allait être affecté de trémulation très comparable à celle qui affecte les personnages investis par la chose.
Donc,
ne prenez pas peur.
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui connaissaient le film, qui l'avaient déjà vu? Donc vous avez plein de choses à dire sur ce film. Alors, vous aussi. Abdel, ouais. Est-ce que tu veux un micro?
Non, un micro de moi.
Ouais, d'accord.
En fait, j'ai deux remarques, et vraiment tragiques. La première, c'est que ce film ressemble très pour très à Alien, le premier film. Ça même trame. Ils arrivent, ils découvrent un truc, il y a une bête, tout remet en cause l'équipe du vaisseau. C'est un peu pareil aussi. Mais le deuxième truc, il a remarqué que la plupart des films post-apocalyptiques, c'est que la démocratie n'existe plus. C'est-à-dire que l'homme ou la femme, qui est leader du groupe, est capable de s'aborder le chef le chef originel pour prendre le pouvoir et pour décider de sauver tout le monde.
Voilà. Ah. C'est ce que j'ai essayé de souligner avec l'idée de, mais tu le dis d'une autre façon, de la pitié et de l'injustice. Enfin, c'est-à-dire que cette prise de pouvoir par Macready oblige à des solutions radicales, y compris si elles sont injustes, qui est quand même a priori pas la caractéristique de la démocratie, au moins sur le papier.
Sur la question de le rapport à Alien. De toute façon, il y avait une communauté d'inspiration. Alien a été écrit par un scénariste qui s'appelle Dan O'Bannon, qui a été un temps un collaborateur très très proche, le plus proche, sur le premier long métrage de Carpenter qui s'appelait Darkstar. Et c'est ensuite que Dan O'Bannon a écrit Alien. Il y a des choses qui, effectivement, sont absolument communes dans l'inspiration des deux hommes, Carpenter et Dan O'Bannon, et c'est pas étonnant si, effectivement, on peut retrouver des situations assez similaires, avec aussi, d'ailleurs, alors de manière encore plus poussée, beaucoup plus poussée, pour le coup, dans Alien, la caractérisation un peu... j'hésite à dire féminine, mais du personnage de la créature, qui est vraiment donnée comme, et qui va l'être d'ailleurs de plus en plus au fur et à mesure des épisodes, comme une mère, une figure de mère. Sauf que dans Alien, elle va être opposée justement à une autre figure féminine, incarnée par Sigourney Weaver. Et.
Oui.
Bien sûr. Elle est quand même pas complètement dénuée de féminité. Oui.
Dans The Thing, Jean-François, vous avez remarqué que la seule présence féminine, c'est la voix de l'ordinateur quand il joue aux échecs.
Oui.
Basta.
Qui était en fait la voix de celle qui était l'épouse de Carpenter à l'époque, Adrienne Barbeau. Mais effectivement, sinon, on est vraiment dans un monde sans femme, pour apprendre un titre récent. Et ça participe peut-être. Alors, l'explication, je dérive un petit peu à propos de. Mais juste sur cette question de la présence féminine, l'explication avancée par Carpenter. À cela, c'est que il n'était pas du tout. Il a des films. Bah, Alien est un film centré sur des figures féminines et une figure masculine pour le personnage du tueur en série, mais en l'occurrence, il voulait écarter tout ce qui pouvait être de l'ordre et qui était assez présent, enfin qui était présent dans la version de Howard Hawks en 51, de l'ordre de l'intrigue amoureuse entre des personnages. Et il lui semblait que la coexistence de personnages masculins et féminins impliquerait forcément un type de relation autre que celui qu'on voit dans le film. Sauf que peut-être qu'on peut voir les choses d'une autre manière, et on peut voir ça aussi comme faisant partie, mais je crois que je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, faisant partie du problème, des problèmes qui minent de plus en plus la petite communauté qu'on voit ici à l'écran. En tout cas, on peut imaginer que sans démagogie féministe, les choses se formulerait en termes de relations entre les personnages d'une manière assez différente si on n'était pas dans une confrontation permanente de personnages masculins. Mais c'est là que je...
De mâle, disons-le.
Pardon ?
De mâle.
De mâle, oui, de mâle. Mais en même temps, c'est là que je prends un peu de... J'envisage les choses d'une manière un peu différente de la vôtre en ce qui concerne les questions de pouvoir. Certes, à un moment donné, il est question de déterminer qui va devenir le chef de la petite communauté. Et à un moment donné, ce pouvoir sera délégué du personnage qu'il détient jusque-là, l'homme qui tire au début du film, à MacReady. Mais en même temps, si on regarde bien le film, on ne peut pas dire que les choses se passent vraiment en termes de lutte de pouvoir. Ce qui me semble vraiment au cœur du film, si ça avait été cette question de la lutte de pouvoir à l'intérieur de la communauté avait pris de la place, il me semble qu'il y a un autre aspect que, en revanche, le film vraiment met sur le devant de la scène, qui aurait eu moins d'importance, c'est cette question, j'allais dire tout bêtement, tout simplement, plus basiquement, de la confiance entre les personnages, qui me semble être vraiment, elle, pour le coup, au cœur des préoccupations du film. Qu'est-ce qui arrive dans une situation extrême de catastrophe quand, au sein même de la communauté, les liens sont abîmés par le fait même que les personnages ne peuvent plus croire en la parole des autres. Si l'aspect lutte de pouvoir avait été plus développé, il me semble que cette question aurait été un peu minorée. Donc il me semble qu'elle n'est pas si importante que ça dans... Mais bon, voilà, c'est mon sentiment.
Alors, faisons confiance au public pour poser des questions. Soyons moins longs dans les réponses. Et Serge, tu voulais intervenir.
Pour revenir sur Alien, il y a vraiment des éléments très précis qui rapprochent les deux.
Oui,
il y a, dans les deux films, il y a un voyage dans le vaisseau spatial où c'est passé à Tokorin, dans Alien, et dans la station norvégienne, dans les deux cas encore explosé. Enfin, il y a le scientifique Epanet dans Alien, et là,
oui.
Il y a vraiment... Je ne dis pas qu'il a fait exprès, mais...
La grande différence, c'est que les choses se passent sur Terre, là.
Oui, mais sinon, ça n'a pas envie de l'aider
oui.
En dehors du monde normal, quoi. Mais c'est pas, je crois que c'est un détail.
Mais je me demande d'ailleurs si Carpenter n'avait pas été approché à un moment donné pour éventuellement réaliser Alien. J'en suis pas sûr, mais je me demande.
Moi, je voulais juste dire que ça fait super plaisir d'en voir Kurt Russell, qui aurait déjà dans ce qu'il a joué après dans un autre film de Feu Bagrat en 1988.
Il n'a plus voulu jouer que dans des films où il y avait du feu. qui a un acteur qui a un drôle de parcours parce que pendant longtemps il était étiqueté acteur Disney. Il avait un contrat chez Disney et il jouait des personnages tout à fait propres et assez inoffensifs. Et c'est vraiment Carpenter qui l'a emmené ailleurs. Et qui, l'image qu'on a de cet acteur n'a plus rien à voir avec celle qu'il avait avant de commencer à jouer dans les films de Carpenter.
C'est l'acteur fétiche de Carpenter.
Oui, il l'a fait.
En 1997, il a embauché. Ah non, il avait déjà joué dans un film sur Elvis Presley, je crois.
Oui, oui. Leur première collaboration, bizarrement, c'est une évocation de la vie de Presley. Mais d'ailleurs, Kurt Russell est très crédible en Presley, physiquement. Ah ouais. Physiquement.
Ça ne saute pas aux yeux comme ça.
Ah, ouais, c'est sûr. Tu verras les photos, c'est.
Ben non, c'est le fils de l'acteur petit de Tarantino.
Malheureusement. Pardon.
Juste un petit détail, cinéma et télévision. Si je ne me trompe pas, l'acteur qui joue celui qui casse le carreau et tire sur le nom régional au début a joué dans une série, une vieille série.
série de l'âge
de cristal. Et l'ironie du sort, il jouait le rôle d'un droïde, d'un humanoïde, d'un faux humanoïde, et qui en plus s'intéresse pour la chose en attendant de
Marie.
Ah oui. C'est un petit détail. À mon avis, lui, il n'a pas de raté dans sa.
Mais là aussi, on est dans un moment où les choses circulent beaucoup, et je crois bien que, parce que le projet de The Thing avait été un peu mis à l'encan, et je crois bien que les scénaristes de cette série avaient été mis sur le coup du projet. Finalement, leur projet n'avait pas été retenu. Donc on est vraiment dans un bout d'histoire cinématographique, là, où entre les scénaristes, les réalisateurs, les acteurs, les choses... circulent et passent d'un film à l'autre, d'où les impressions de proximité.
Qui a donné les dates de Alien et Alien, parce que j'ai un problème de chronologie.
The Thing est de 82 et Alien est de 79.
Ah, voilà. Et 2017 espace, donc on peut se trouver dans la
68.
Oui,
oui. Le film lorgne par bien des côtés, mais c'est la modestie du film, le côté non délibérément non visionnaire, non démiurgique du film, peut se reconnaître dans justement la représentation quand même très différente des ordinateurs dans l'un et l'autre des films. C'est peut-être un des ordinateurs les plus mémorables de l'histoire du cinéma dans 2001, mais qui a une dimension lyrique. Très impressionnante, alors que dans ce film-là, on revient à quelque chose de beaucoup plus circonscrit, simple.
Moi, en revoyant les extraits, en revoyant la chronologie des extraits, je ne sais pas si entre, voilà, c'est autrement, mais...
Non, on ne refera pas le résumé.
Non, mais je dirais, mais le scientifique est un taiseux.
Un taiseux.
Il ne parle pas, il ne transmet pas à la communauté son savoir. Il transmet un peu son angoisse, mais pas son savoir. Et je me dis, aujourd'hui, on a quand même des scientifiques qui transmettent leur savoir, et cependant, face à cette transmission du savoir, la communauté des hommes reste tout autant sceptique. Donc je me disais, cette remarque, que quelle que soit la position, en tout cas le film où j'en montre qui essaie de se taire sur la découverte de la catastrophe à venir, nous on a, on va dire entre guillemets, la chance qu'on a des scientifiques qui parlent, mais pourtant rien n'est fait pour enrayer la catastrophe.
Oui, mais c'est un peu ce sentiment qu'on peut avoir face à la mise en avant de la catastrophe, que quelle que soit la façon dont on en parle ou dont on n'en parle pas, façon hyper dramatisée, voire les reproches très grands qui avaient été faits à l'époque, par exemple, comment s'appelle-t-il, notre ancien ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, avec un film qui avait été considéré comme beaucoup trop pessimiste, je ne me rappelle plus du titre du film. Demain, ça s'appelait, oui, c'est possible. Sur l'état de la planète, ou qu'on en parle de manière atténuée, on a souvent l'impression.
Au contraire de reconstruction, c'est plutôt sur l'espoir.
Ah oui, alors c'est un autre film qui était vu comme.
On pourrait lui reprocher l'inverse.
Mais il a fait un film en tout cas qui avait été rejeté par son pessimisme extrême, mais je ne me rappelle plus du titre du film. Et on a l'impression effectivement que souvent, quelle que soit la façon dont on parle ou on n'en parle pas, les choses passent difficilement. Mais en tout cas, c'est vrai que dans le film, c'est un plan que je trouve très beau, le moment où il est enjoint de donner son avis et la caméra se rapproche de lui et pendant un assez long moment, il reste mutique, il y a quelque chose de très, très pathétique. Quelque chose qui est presque trop grand par rapport à son propre savoir.
Sur Carpenter, c'est qu'il y a, d'habitude, il ne fait pas d'horreur aussi explicite. Enfin, il y a beaucoup de films de Carpenter qui sont plus joués sur le suspense. Oui. Là, c'est un des premiers où il se lâche. Pornographe de l'horreur, quand tu dis.
Oui, oui, le suspense ou effectivement une forme de litote ou de.
Non, dans la tour, dans
une façon de montrer à moitié ou très peu dans Halloween, il y a au moins autant de choses qui sont laissées dans l'ombre que de choses qui sont exhibées. Et c'est vrai que c'est. Mais peut-être justement, ça, peut-être que ça a à voir avec ce que je disais tout à l'heure, pour éviter que. Le phénomène terrifiant qui est évoqué dans le film soit éventuellement vu comme une pure représentation mentale, une espèce de délire obsidional, enfin de psychose collective qui affecterait tous les personnages. Peut-être faut-il, et en tout cas c'est la première fois qu'il s'y livrait à ce point, une figuration aussi. Aussi extrême. C'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qu'on retrouve forcément dans les autres films de Carpenter. Et je crois qu'il n'est jamais allé aussi loin que ça, même dans ses films ultérieurs, je pense.
Mais dans la comparaison avec Alien, justement, et enfin, le premier Alien qui est presque contemporain.
Oh, tu t'es plongé dans le noir.
Voilà, c'est l'inverse qui se produit. Et pour autant, on n'a pas l'impression, pour le coup, qu'il s'agisse de psychose obsidionale comme tu disais.
Oui, mais la créature est en revanche extrêmement présente dramatiquement. Elle est au moins aussi présente en coulisses que l'est la.
Alors la différence, c'est qu'elle n'est pas à l'intérieur des hommes.
Voilà, elle n'est pas à l'intérieur des hommes.
Ce qui peut permettre de jouer sur cette. Ce clair-obscur, ce cachet montré qui caractérise le film de Scott quand même. Il nous reste encore 2-3 minutes, ou 4 ou 5, si vous souhaitez intervenir encore.
Je voudrais rappeler que quand le film est sorti aux États-Unis, c'était au moment de la sortie de l'IT, l'extraterrestre, et que les gens se venaient, c'est l'air Reagan qui commençait à Ronald Reagan, ils ont voulu de l'optimisme. Bon,
le film est sorti.
Ils ne pouvaient plus se planter.
Deux semaines après la sortie.
Je pense que c'est la même compagnie qui sortit et ce film-là.
C'est bien parce que.
Ils ont délibérément sacrifié dans la sortie américaine de films de Carpenter. Bon, là, il n'y a aucune chance. Genre, ils vont des gens extraterrestres.
Oui, on a souvent dit que dans un autre contexte. Et, c'est vrai que E.T. balayait tout sur son passage à ce moment-là. Le film aurait peut-être eu un devenir autre. C'est vrai que pour Carpenter, ce film, il considère que ce film a eu des conséquences très très négatives sur la suite de sa carrière. Parce que le film a été vraiment très mal reçu de la part même des fans de fantastique, étonnamment.
Comment expliques-tu ça?
Parce que peut-être que ça a à voir avec ce que je disais tout à l'heure de l'absence de musique dans la scène qu'on a vue. Je pense que le film ne présente aucune porte de sortie émotionnelle pour le spectateur. Il y a un moment donné, et ça a à voir peut-être aussi avec cette inéluctabilité dont j'ai parlé au départ. Parfois, et beaucoup à cette époque-là d'ailleurs, dans les années 80, la porte de sortie, même dans des films qui pouvaient aller par ailleurs très loin dans la représentation horrifique, c'était une forme d'humour ultra présent qui provoquait une sorte de court-circuit entre le spectateur et le film, qui faisait que les choses étaient vues avec beaucoup de distance, aussi horribles soient les phénomènes à l'écran. Ici, à aucun moment, il y a cette possibilité. Il y a une forme d'humour, mais très très souterraine. Par exemple, quand je disais tout à l'heure que quelque chose se jouait peut-être au niveau de la le côté Babel, le fait que les personnages ne parlent pas la même langue, juste avant, alors je sais que peut-être qu'il n'y a que moi que ça fait sourire, mais il y a ce personnage qui dit, il y a quelque chose, Nord était écrit sur le côté de l'hélicoptère, ou quelque chose comme ça. Enfin, on a l'impression d'une espèce de rapport un peu plouc, un peu... voilà. une espèce d'absence totale de possibilité d'aller vers la langue de l'autre qui passe par cette petite réplique, mais on est très loin de l'humour hyper très au second degré constant qu'on voyait, qu'on trouvait dans des films comme, je sais pas, Dan O'Bannon à l'époque a réalisé, je crois que c'est de lui, hein, son seul film en tant que réalisateur, qui s'appelle Le Retour des morts vivants. C'est d'ailleurs un assez bon film, mais c'est un film qui est au moins autant une comédie qu'un film horrifique. Là, il y a quand même quelque chose qui enferme le spectateur dans quelque chose, dans une dimension assez... Oui, en tout cas, une gravité qui n'était peut-être pas ce que les spectateurs de l'époque attendaient d'un film fantastique. Bon, on dirait que c'est vrai qu'Alien va un petit peu contre ce que je dis là aussi, mais quand même, vraiment, dans 80-85, c'est le moment où l'humour devient omniprésent, et parfois beaucoup trop présent sans doute, dans le cinéma fantastique. Il y a peut-être un sentiment de contre-temps, de même que il y avait ce contre-temps que tu évoquais, Serge, à propos par rapport à la sortie de E.T. qui proposait un extraterrestre extrêmement sympathique et non agressif.
Le film, à la fin, il nous laisse quand même sur la question de l'ambiguïté du vivant. On ne sait pas si... avec cette pulsation dont tu as bien parlé, Jean-François, qui nous rappelle que c'est la pulsation du vivant, enfin...
Mais de quel vivant ?
Voilà.
De quel vivant ? Parce que l'ironie du film, c'est que le personnage, parfois les figures d'extraterrestres ou les figures de personnages négatifs, disons-le comme ça, dans les films fantastiques, sont en totale opposition avec le monde du vivant. La créature, la chose, est au contraire une entité qui se signale par une hyper-vitalité. Elle n'est que vie. Et elle est vie prémorale. C'est là qu'il y a ce que tu évoquais tout à l'heure. Donc tu es un meurtrier. Dans cette scène, on se dit aussi que ce qui complique beaucoup la vie des humains, c'est la question de la morale, qui, à géométrie variable d'ailleurs dans la scène, puisque à un moment donné, ils sont prêts à donner totalement crédit au test qui est en cours, et puis à un autre, il ne lui donne plus du tout crédit, mais quand il lui donne crédit, tout d'un coup, c'est à partir de ce crédit-là qu'ils énoncent la moralité ou l'immoralité du personnage, en tout cas son statut de criminel, d'assassin. Et la créature, elle, n'est que vie en absence de toute question morale. D'ailleurs, on peut signaler peut-être que il y a quelques années, un écrivain a proposé une espèce d'inversion des points de vue, un film qui s'appelait The Things, je crois, Les Choses, où on partageait le point de vue de la chose qui ne comprenait pas pourquoi les êtres ne l'accueillaient pas et mettaient une telle mauvaise volonté à se laisser remplacer. Voilà.
Bon, ben, puisqu'on parlait d'humour, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous trouvez une once d'humour dans Stalker, vous nous écrivez avant, on va essayer de chercher à justifier ça. Donc la semaine prochaine, on proposera l'analyse d'un film russe d'Andrei Tarkovsky, Stalker.
Merci. Prochain.